Alors, on ne pratique pas. On est content, on est revenu dans la région parisienne. On est plutôt dans le sud-est de l'Île-de-France, près de Marolles-sur-Seine, si ça vous, en dessous de Melun. Et donc, si vous connaissez cette région-là, c'est là où nous habitons actuellement. On est venu dans la région parce que nous avons des enfants qui habitent pas loin d'ici. On a une fille, notre enfant aîné, Elisabeth, qui habite à Sainte-Geneviève-des-Bois. Donc, c'est tout près d'ici. Hein? Il y en a qui connaissent très bien Sainte-Geneviève-des-Bois. On a failli leur rendre visite ce matin parce que en suivant l'autoroute pour venir ici, je me suis mal dirigé et je me retrouvais à Sainte-Geneviève, sans doute par habitude, hein, à Sainte-Geneviève, en allant vers notre fille plutôt qu'en venant ici. Mais bon, on a quand même fini par trouver le chemin. Et puis, on a un autre enfant, un fils, Joseph, qui habite à Pantin. Bon, c'est toujours en région parisienne. Benjamin, bien sûr, il est toujours avec nous. On a un quatrième enfant. Il est deuxième dans la lignée, mais un quatrième enfant, un garçon qui s'appelle André. Lui, on n'essaie même pas de le suivre. Il voyage beaucoup parce qu'il travaille dans les ambassades américaines. Actuellement, il est en Éthiopie. Je lui ai déjà dit qu'il ne fallait pas qu'il attende à ce que nous lui rendions visite là-bas. Ça me plairait bien, ça me plairait bien. Mais bon, le Seigneur nous a permis de revenir un peu à nos racines ici en Île-de-France pour nous rapprocher de nos enfants et par la même occasion de nous rapprocher de vous ce matin et d'être avec vous. Maintenant, un conseil. Combien ici lisent la Bible tous les jours? Vous pouvez vous dénoncer si vous voulez. D'accord, très bien, c'est formidable. Je me souviens une fois d'être allé chez un pasteur et qui nous a invité, Karine, Benjamin, moi, nos enfants, à participer à son culte en famille. Il était avec son épouse, au moins un enfant ou deux, je ne sais plus combien ils étaient à l'époque. Et puis, on s'est installé. Et lui, il avait tout, sur un bout de papier, il avait toute une liste de choses qu'il cherchait chaque fois qu'il lisait la Bible pour lui-même. Une des choses qu'il devait chercher, c'était de découvrir dans le passage de lecture ce que ce passage disait par rapport à Dieu. Et ça, c'est formidable. C'est ce que j'aimerais faire avec vous ce matin. Jérémie chapitre 11. Alors, je vais faire la lecture. Vous pouvez me suivre en écoutant, mais en même temps, en cherchant comment Dieu se dévoile lui-même à travers cette lecture. D'accord? Jérémie chapitre 11, peut-être ça n'arrive pas, je ne le fais pas très souvent, c'est un peu long, mais ce matin je vais lire tous les chapitres, d'accord? Vous cherchez ce que ce chapitre a à nous révéler par rapport à Dieu. D'accord? Vous y êtes? Jérémie chapitre 11? D'accord, très bien, je commence la lecture au verset 1. Qui dit « La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Écoutez les paroles de cette alliance et parlez aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem. Dis-leur, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Maudit soit l'homme qui n'écoute point les paroles de cette alliance que j'ai prescrite à vos pères, le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte, de la fournaise de fer en disant « Écoutez ma voix ». Et faites tout ce que je vous ordonnerai. Alors vous serez mon peuple, je serai votre Dieu, et j'accomplirai le serment que j'ai fait à vos pères de leur donner un pays où coule le lait et le miel, comme vous le voyez aujourd'hui. Et là, Jérémie ne pouvait pas s'empêcher de dire ceci, et je répondis, Amen, l'Éternel. Alors, Dieu reprend, l'Éternel me dit, verset 6, « Publie toutes ces paroles dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem en disant, écoutez les paroles de cette alliance et mettez-les en pratique, car j'ai averti vos pères, depuis le jour où je les ai fait monter du pays d'Égypte jusqu'à ce jour, je les ai avertis tous les matins en disant, écoutez ma voix. Mais ils n'ont pas écouté et ils n'ont pas prêté l'oreille. Ils ont suivi chacun les penchants de leur mauvais cœur. Alors, j'ai accompli sur eux toutes les paroles de cette alliance que je leur avais ordonné d'observer et qu'ils n'ont point observé. Troisième mot maintenant de l'Éternel. L'Éternel me dit, il y a une conjuration entre les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem. Ils sont retournés aux iniquités de leurs premiers pères, qui ont refusé d'écouter mes paroles. Et ils sont allés auprès d'autres dieux pour les servir. La maison d'Israël et la maison de Juda ont violé mon alliance que j'avais faite avec leur père. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, voici, je vais faire venir sur eux des malheurs dont ils ne pourront se délivrer. Ils crieront vers moi, et je ne les écouterai pas. Les villes de Juda et les habitants de Jérusalem iront invoquer les dieux auxquels ils offrent de l'encens. Mais ces dieux-là, ils ne les sauveront pas autant de leurs malheurs. Car tu as autant de dieux que de villes, ô Juda, et autant Jérusalem a de rues, autant vous avez dressé d'autels aux idoles, d'autels pour offrir de l'encens à Baal. Et toi, il dit maintenant un mot particulier à Jérémie, et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple, n'élève pour eux ni supplication ni prière, car je ne les écouterai pas. Quand ils m'invoqueront, à cause de leur malheur. Que ferait mon bien-aimé dans ma maison? Il s'y commet une foule de crimes. La chair sacrée disparaîtra devant toi. Quand tu fais le mal, c'est alors que tu triomphes. Olivier verdoyant, remarquable par la beauté de ton fruit, tel est le nom que t'avait donné l'Éternel. Au bruit d'un grand fracas, il embrase par le feu et ses rameaux sont brisés. L'Éternel des armées qui t'a planté appelle sur toi le malheur à cause de la méchanceté de la maison d'Israël et de la maison de Juda qui ont agi pour m'irriter en offrant de l'encens à Baal. L'Éternel m'en a informé et je l'ai su, dit Jérémie. Alors tu m'as fait voir leurs œuvres. J'étais avant comme un agneau familier qu'on mène à la boucherie et j'ignorais les mauvais desseins qu'ils méditaient contre moi. Qu'est-ce qu'ils méditaient? Ben, écoutez leurs paroles. Détruisons l'arbre avec son fruit. Retranchons-le de la terre des vivants et qu'on ne se souvienne plus de son nom. Mais l'Éternel des armées est un juste juge. Il sonde les reins et les cœurs. Je verrai, dit Jérémie, ta vengeance s'exercer contre eux, car c'est à toi que je confie ma cause. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, contre les gens d'Anatote, c'est une ville là, en Juda, en veulent à ta vie et qui disent, ne prophétise pas au nom de l'Éternel, ou tu mourras de notre main. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel des armées, voici, je vais les châtier. Les jeunes hommes mourront par l'épée, leurs fils et leurs filles mourront par la famine, aucun d'eux n'échappera, car je ferai venir le malheur sur les gens d'Anatote, l'année où je les châtierai. Wow! Vous avez remarqué des choses que Dieu révèle par rapport à lui-même? La première chose que j'ai notée dans les tout premiers versets, c'est que Dieu tient toujours sa parole. Il fait souvent allusion dans les premiers versets et même après de l'alliance qu'il avait traitée avec Israël, mais il y avait bien, bien, bien longtemps. Je ne sais pas, il parle de Moïse, de cette sortie, cet exode de l'Égypte. Et c'était à cette époque qu'il avait traité une alliance avec eux en disant, « Si vous obéissez à ma voix, je serai votre Dieu. Et je vous mènerai dans un pays où coule le lait et le miel. Un pays d'abondance, pas un désert. Mais un pays où j'ai déjà tout pourvu pour vous. » Ça, c'était il y avait 800 ans avant le temps de Jérémie. Est-ce que Dieu avait tenu sa parole? Oui. Parce qu'à un moment donné, il dit à ceux qui l'écoutaient, et vous êtes témoins de cela. C'est comme vous le voyez aujourd'hui. Nous sommes dans ce pays. Dieu nous y a amenés. Dieu tient toujours sa parole, mes amis. Et il avait fait, et il tenait toujours son peuple responsable de l'obéissance qui lui devait. 800 ans après. Dieu ne change pas. Ce qu'il a dit, il accomplira parfaitement. Et c'est ce qu'il a fait. Il a dit encore des choses dans ce passage qui sont terribles. Toutes ces choses aussi se sont arrivées par la suite. Et Jérémie, à qui il avait dit, « Tes yeux verront », ben, il a vu. Ça lui a fendu le cœur de voir la puissance de Dieu contre son peuple. Alors qu'au début, il leur a donné un nom qui était comme cet arbre verdoyant que j'ai planté. Je t'ai appelé comme ça, mais tu ne m'as pas été fidèle. Eh bien, autant qu'il y a de rues à Jérusalem, autant il y a d'hôtels. À chaque carrefour de rue, il y avait encore un hôtel et un hôtel. Vous vous souvenez de cette histoire de Paul, quand il va à Athènes, et il a dit, « Oh là 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 là, qu'est-ce que vous êtes des gens religieux ? Vous avez tellement de dieux que vous ne savez même plus quels sont leurs noms. J'ai même vu, dit-il, un autel à un dieu inconnu. » Juste pour être sûr de ne pas oublier quelqu'un d'important. Hein. Mais il y avait autant en Israël. Incroyable. Mais la parole demeurait toujours d'actualité. Et Dieu tenait sa parole. Il le fait encore aujourd'hui. Maintenant, l'alliance, il a traité avec Israël, à moins que vous soyez de souche juive, et c'est possible, il y a des juifs parmi nous, formidable. Mais je ne le suis pas, peut-être la majorité d'entre nous, nous ne le sommes pas, mais Dieu ne nous a pas traité la même alliance. Mais Dieu nous a parlé quand même. Dans sa parole. Et il nous a laissé aussi des promesses qu'il tient encore ce jour. Vous vous souvenez de Hébreux chapitre 1, cette parole qui est dit ici, après avoir autrefois plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Ah, Dieu nous parle à travers son Fils Jésus-Christ. Et il tient sa parole. Maintenant, qu'est-ce que le Fils nous dit? Ça, c'est une bonne question. Si Dieu tient sa parole, qu'il annonce par son Fils et en son Fils, eh bien, qu'est-ce qu'il nous dit, le Fils? Eh bien, j'ai relevé, rien que dans l'évangile de Jean, Jean était un de ceux qui étaient le plus proche, plus intime ami de Jésus-Christ. Et il a écrit un jour, sous l'inspiration de l'Esprit, ses souvenirs de ce temps passé avec Jésus-Christ. Et dans son évangile, il annonce des choses qui ne sont pas que pour les Juifs, mais qui sont pour le monde entier. Sont pour, comme on retrouve très souvent l'expression, c'est pour quiconque. Et la première chose, alors j'ai fait une petite liste ici, je ne vais pas tous les lire hein, parce qu'il y en a beaucoup. La première parole que Jésus a dite est dans Jean chapitre 3, à partir de verset 15, où il est dit ceci, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. » Point, mais qu'il est la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde, vous connaissez le verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde vive par lui. Il voulait le sauver. Ça, c'est peut-être la toute première chose. En tout cas, c'est la première chose que Jean raconte dans son évangile, que Jésus, le Fils, par qui le Père nous parle, la première chose qu'il voulait nous dire ce matin, je veux vous sauver. Vous méritez, peut-être comme les Juifs d'autrefois qui avaient été infidèles à Dieu, vous méritez le jugement, mais j'ai envoyé mon Fils. Et si vous croyez en lui, eh bien, quiconque a la vie éternelle. Et ils ne périssent point. C'est formidable. Il y a plein d'autres. Hein. Il est dit aussi dans Jean chapitre 6, verset 40, « La volonté de mon Père. » Alors là, on est sûr. Hein, là, c'est le Fils qui le dit, mais il le transmet de son Père. « La volonté de mon Père, dit-il, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Formidable. Formidable. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais nous mourrons tous si le Seigneur ne revient pas avant. Eh oui, je me souviens, il y a quelques années, nous étions aux États-Unis, mon épouse et moi, nous étions en congé, on passait au siège de notre mission, et il voyait que nous étions en train de prendre un peu de l'âge. Alors, ils nous ont parlé de notre testament. Ils ont dit, bon, vous avez peut-être encore un peu de temps, mais qui sait. Mais la personne qui parlait avec nous disait, je ne veux pas vous faire peur, ni rien, mais c'est un secret pour personne. Nous mourrons tous. Et il vaudrait mieux s'y préparer à l'avance. Eh oui, mes amis, il faut. J'ai déjà enterré mon père. Ma mère, elle vit toujours, elle a... Bientôt, ce mois-ci, elle aura 97 ans. Peut-être je l'enterrerai un de ces jours aussi, je ne sais pas. Mais nous y allons tous. Mais Jésus-Christ, il a dit ceci. Et il dit, je tiens ça de mon Père, c'est sa volonté. Que au dernier jour, ceux qui croient en moi, je les ressusciterai. Oui, il y en a plein d'autres. Je ne vais pas tous les lire. Il y en a plusieurs dans cet évangile qui ont à peu près le même sens. Écoutez Jean, chapitre 12, verset 46. Jésus dit, « Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Oui, nous pouvons être éclairés par rapport à, comme nous avons vu ce matin, où se trouve la vraie joie de vivre. Où se trouve ce qui peut étancher la soif de mon âme? Où se trouve l'espérance de la vie éternelle? Eh bien, il ne voulait pas nous laisser dans les ténèbres. Il est venu comme une lumière dans le monde. Et si vous croyez en lui, eh bien, vous ne resterez plus dans les ténèbres. Il y a celui-ci que j'aime beaucoup, mais vous connaissez bien, Jean chapitre 14, hein? Jésus-Christ, il avait annoncé déjà au chapitre précédent qu'il allait partir. Et ça les a troublés. Mais au début du chapitre 14, il dit à ses disciples que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi, il dit. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Et puis il ajoute, je vais vous préparer une place. Parole du Seigneur Jésus-Christ qui nous dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Formidable. Oh, il y a tant d'autres, mes amis. Mais la parole de Dieu est, comme dit un autre texte dans la Bible, est comme une encre à notre âme. Par rapport à l'espérance que nous avons dans l'avenir. Vous pouvez compter sur ce que Dieu nous dit dans sa parole, parce qu'il tient toujours ses promesses. Ça, c'est déjà quelque chose qu'il voulait dire aux gens de l'époque de Jérémie. Attention, je vous ai donné il y a très longtemps une alliance.
Vous l'avez eu.
Vous l'avez connu. Je vous tiens toujours responsable parce que moi, je vais appliquer les bénédictions ou les malédictions qui sont associées à la loi. Vous pouvez compter dessus. Et aujourd'hui, Dieu nous a laissé des promesses de bénédiction pour nous. Et il tient à sa parole. Maintenant, il y a une deuxième chose que je vois dans ce passage, où on pouvait passer la matinée à ne penser qu'à cette première révélation de notre Dieu, celui qui tient ses promesses. Mais il y a une autre chose que je vois dans les versets 6 à 8, c'est que Dieu avertit ceux qui s'éloignent de lui et deviennent infidèles dans leur vie de croyant. Regardez verset 7 où il dit que c'était depuis le jour où je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Et il ajoute, c'était tous les matins. Tout à l'heure, on a chanté un chant où il y avait quelque chose, une petite phrase qui disait quelque chose. Qu'est-ce que c'est bon tous les matins d'annoncer son nom. Oui. Mais Dieu aussi, si dès le matin, nous parlons les uns aux autres, dès le matin, et ça depuis plus de 800 ans, Dieu parlait à son peuple. C'est la grâce, mes amis. C'est la grâce, parce qu'Israël, pour la majorité de ce temps-là, n'avait pas été fidèle envers son alliance. Et pourtant, il usait de grâce envers lui. Oh, la grâce et la patience de Dieu! Vous avez connu la patience de Dieu? Est-ce que vous avez la conviction que Dieu était patient envers vous? Moi, c'est mon cas en tout cas. Oh là là! Combien de fois je me suis dit, oh Richard, voilà, tu as encore fait telle chose, tu as eu telle pensée, tu as eu tel ressentiment, ou que sais-je encore? Et puis j'ai pensé à ce verset dans la Bible, encore c'est Dieu qui nous parle là quand il dit, si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour vous les et pour vous purifier de tout péché, toute iniquité. Ouais, la patience de Dieu, elle est grande, hein? Je ne vais pas passer autant de temps avec ça parce que je ne veux pas accabler qui que ce soit ce matin, mais nous pouvons tous dire merci Seigneur pour ta patience, pour tes bontés, pour ton pardon qui se renouvelle. Jérémie d'ailleurs, le même, il a dit plus tard, ayant vu toute la tragédie qui était arrivée à son peuple, il a dit dans ses lamentations que les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent tous les matins. Eh oui, Dieu, il est comme ça. Il est patient envers nous. Merci, Seigneur, pour cela. Hein? Merci, Seigneur, pour ta bonté, pour ta patience envers nous. Et puis, dans les versets 9 à 17, je vois que Dieu livre... Alors là, c'est la partie la plus noire de ce chapitre, je crois. Il livre son peuple infidèle. Il les livre à leurs infidélités, justement. Il dit quelque chose de terrible ici dans ce chapitre. Il dit, le jour de votre malheur, vous allez venir vers moi, vous allez m'invoquer, vous allez me prier. Et alors là, je vais le faire un jour, Jérôme, tu peux le faire pour moi peut-être. Je suis convaincu que tu peux le faire. Une série de messages sur les choses que j'aurais jamais voulu trouver dans la Bible. Ça, c'est un passage. Tu mets ça sur ta liste et tu fais l'autre. D'accord? Oh là là! Mais je pensais que Dieu a écouté tout le temps. Qu'il était au ciel comme ça, un peu penchant en avant comme ça, avec les mains derrière les oreilles comme ça, pour ne rien louper de mes prières. Et là, je lis qu'au jour où Israël allait être dans une grande détresse à cause de ses manquements, elle allait prier. Et Dieu n'allait pas écouter. D'ailleurs, il a dit à Jérémie, « Et toi non plus, tu ne vas pas prier pour eux. Ce sera vain, parce que je ne t'écouterai pas non plus. » Mais il dit ceci. Là, vous brûlez de l'encens devant Baal et tous ces différents dieux dont vous avez érigé des autels partout en ville. Mais allez vers eux. Allez vers eux. Essayez de voir si eux, ils vont te délivrer. Oui, il est livré à leurs infidélités. Il dit au verset 11 et 12, « Je vais faire venir sur eux, les Israélites infidèles, des malheurs dont ils ne pourront se délivrer. Ils crieront vers moi et je ne les écouterai pas. Les villes de Juda et les habitants de Jérusalem iront invoquer les dieux auxquels ils offrent de l'encens, mais ceux-là ne les sauveront pas au temps de leur malheur. » Mes amis, si c'est nous qui avons créé un Dieu, ce Dieu que nous avons créé est moins fort que nous. Obligatoirement. Là, c'est que logique. Et si nous nous trouvons dans la détresse et nous n'avons que des dieux que nous avons faits par notre imagination, nos mains, nos ressources à nous, pour prier, eh bien, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire pour nous? Rien du tout. Rien du tout. Verset 14, « Et toi, il dit à Jérémie, n'intercède pas en faveur de ce peuple, n'élève pas pour eux ni supplication ni prière, car je ne les écouterai pas. » C'est dommage parce que Dieu a institué la prière. Il a créé ce lien entre lui et nous. Et nous invite à aller vers lui pour déposer à ses pieds toutes nos louanges, oui bien sûr, mais aussi tous nos fardeaux, nos peines, nos douleurs. Et c'est vraiment dommage que quelquefois dans la vie de l'un ou l'autre, on l'a poussé à une telle extrémité que lui ferme la porte. Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai enterré mon père. Oui, c'était il y a quoi, 7 ans, quelque chose comme ça. Il est décédé. Mais c'était un homme, il disait, et tout le monde le reconnaissait. Il avait ce qu'on appelle la mèche longue. Vous voyez ce que je veux dire? Vous savez que lorsqu'on veut allumer la dynamite, il vaudrait mieux mettre une mèche longue pour vous donner le temps de vous en éloigner. Ben, il y a des personnes qui ont la mèche courte. Vous n'avez qu'à leur dire un mot, ou parfois juste un regard un peu, qu'ils ont du mal à interpréter vos intentions, et que, paf, ils explosent. Il y en a qui sont comme mon père, hein, qui ne répond pas, qui ne dit rien. Mais il nous disait à nous, quand nous étions enfants, attention, hein, ma mèche, elle est longue. Mais il arrive au bout quand même. Hein. Et je peux vous témoigner que le bout de la mèche de mon père valait mieux l'éviter. Hein. Oui. Nous avons du mal à imaginer que Dieu a une limite à sa grâce. Il a une limite à sa patience. Et nous devons aller vers lui avant qu'on arrive là. Dans Jacques chapitre 1, verset 5, il dit, si quelqu'un parmi vous manque de sagesse, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, demandez, ça c'est prier. Demandez-la lui, il vous donnera. Il ne va même pas faire des réprimandes. Vous n'avez pas à imaginer que vous devez un peu baisser la tête et dire, désolé père, mais... Je ne sais pas quoi faire. Je suis dans la honte, je ne sais pas quoi faire. Mais non. Vous savez, il y a un autre verset dans Romains chapitre 8 qui dit que l'Esprit intercède en notre faveur. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas ce que nous devons demander. Et pendant des années, je me suis dit, ah oui, ça c'est vrai, hein. Ça, c'est vrai, la Bible dit vrai, là. Parce qu'il y a quelques fois dans ma vie où je ne sais pas si je dois tourner à droite ou à gauche, ce que je dois faire. Et là, dans ces circonstances-là, je dois prier. Et puis un jour, je me suis rendu compte, le verset ne dit pas ça, hein, que c'est quelquefois. Non, la Bible dit, vous ne savez pas, point à la ligne. Quand nous étions dans l'est de la France, près de Thionville, là, il y avait pas mal de gens d'origine italienne. Ils ont une petite expression qui vient de chez eux, basta. Oui, vous ne savez pas, basta, c'est tout, c'est fini. Richard, vous ne savez pas, c'est votre faiblesse. Eh oui. Oh, je sais qu'il y a des fois où je pense être plus intelligent même que Dieu. Vous n'y pensez pas, pas, quelquefois? Non, ne vous dénoncez pas. Oui. Mais on n'a pas recours à cette porte ouverte que Dieu nous donne. 1 Jean chapitre 5, verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Ah, vous connaissez bien la Bible. Formidable. Formidable. Il nous écoute. C'est encore une promesse. Jean chapitre 15, verset 7, dans l'Évangile. Si vous demeurez en moi, dit Jésus, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Très bien, très bien. Oui, c'est comme ça que j'aime bien imaginer la prière. Et vous aussi. Nous en avons tellement besoin d'avoir ce recours. Et normalement, il est là. Mais attention, attention, si nous offensons Dieu, si nous ne demandons pas selon sa volonté et nous ne demandons que pour satisfaire nos propres convoitises, comme Jacques nous dit, est-ce que Dieu va répondre par un grand oui? Non. Le malheur, c'est que très souvent, nous n'arrivons pas à cette extrémité. Parce qu'avant de demander mal, nous ne demandons plus. Et nous oublions la prière. Et c'est dommage, c'est bien dommage. Et imaginez, mes amis, qu'au bout de sa patience, Dieu ne nous dise, je ne vous écouterai plus. Ce serait terrible. Ce serait une chose terrible. Vous dites, Dieu, il ne ferait jamais une telle chose. Oh que si. Oh que si. Le prophète Ésaïe, il a dit ceci, cherchez l'Éternel quand, pendant qu'il se trouve. Ça laisse sous-entendre que, après, vous pouvez beau le chercher, vous ne le retrouverez pas. Pendant qu'il se trouve, invoquez-le, tandis qu'il est prêt. Est-ce que Dieu s'éloigne de nous? Ah non. Dieu, il est omniprésent, il est partout. C'est que notre cœur s'éloigne de lui. Et il peut être tout près de nous. Et on ne se rend même pas compte. Ça me fait penser à quelque chose qui est arrivé dans le ministère de Jésus-Christ. Je crois que c'est à la fin de chapitre 8 ou 9 de Matthieu. Lorsque un jour, il dit dans le texte, Jésus-Christ, levez les yeux. Et il regardait la foule, la multitude qui était là, comme des brebis qui n'avaient pas de... Et il était le beau berger. Ils n'ont pas vu, ils n'ont pas reconnu.
Peut-être aujourd'hui, l'un ou l'autre, peut-être n'a pas encore reconnu Jésus-Christ pour son bon berger. Mais vous pouvez encore, c'est jour de grâce, il est prêt à vous entendre. Souvenez-vous des 10 vierges? Dans le lot, il y avait 5 et 5, n'est-ce pas? Je crois que c'était comme ça, 5 et 5. Parmi les 10 vierges, une parabole de Jésus, et il parle des noces. Et voilà, selon les coutumes en rigueur à l'époque, eh bien, on savait que les noces devaient avoir lieu, mais on ne savait pas la date. On ne pouvait même pas envoyer des faire-part, c'était plus économique.
On ne savait pas.
Parce que l'époux, enfin le fiancé, avait plein de préparatifs à faire. Et c'était au moment où tout était prêt qu'il passait dans les rues de son village et tout le monde savait que c'était le moment. Et on devait le suivre et aller dans la salle de noces. Et voilà qu'il y avait dans ce village, dans l'histoire de Jésus, il y avait 10 vierges qui attendaient, qui attendaient, qui attendaient. 5 entre elles avaient fait quoi ? Ben, elles avaient fait des provisions. Eh oui. Elles sont allées à Aldi chercher de l'huile, ou je ne sais pas où, hein, chercher de l'huile. Elles auraient beaucoup plus de mal à en trouver aujourd'hui, hein, parce que apparemment, ça monte un peu dans les rayons. Mais bon, chercher leur huile. Et elles étaient prêtes. Elles avaient déjà préparé leur lampe, l'huile était là, il fallait juste simplement sortir le briquet et allumer. Mais les 5 autres, elles sont appelées folles. Pourquoi ? Elles n'avaient pas fait de provisions. Elles n'avaient pas d'huile. Elles avaient leur lampe qui était là. Et si le fiancé devait passer la nuit, comment allait-elle faire ? Et justement, c'était arrivé. Et finalement, quand c'était le moment, et il arrive dans les rues, et toutes les vierges se lèvent pour partir avec lui, les 5 qui n'avaient pas de provisions ont demandé un peu de l'huile chez les 5 autres, et elles ont dit non, parce que si on vous en donne de notre huile, ben, ça va nous manquer aussi, et on sera tous dans l'embarras. Allez chercher, alors, vous imaginez, les portes des magasins sont déjà toutes fermées, et elles doivent chercher de l'huile. Elles en ont trouvé. Malgré tout, elles ont trouvé de l'huile. Et puis elles se sont dépêchées pour arriver à la salle d'où tout le monde était déjà réuni à l'intérieur. Elles arrivent dans la porte, elles frappent à la porte. Et l'époux vient. Et qu'est-ce que l'époux dit ? Je vous le dis en vérité, Matthieu 25, 12. Je ne vous connais pas. C'était trop tard. Là, c'est un autre verset, tu peux mettre ça sur ta liste, Jérôme, de passage que vous n'aimeriez pas voir dans la parole de Dieu. Je ne vous connais pas. Ce serait terrible d'imaginer qu'un jour, alors que tout le monde, ce n'est pas un mystère, tout le monde doit rencontrer son Créateur, sera là devant lui et entendra, je ne vous connais pas. Ce sera terrible. Trop tard, simplement trop tard. Ce n'est pas lui qui manque de volonté, c'est nous qui avons été peut-être un peu insensés dans notre vie. On a dit, oh, ça peut attendre, il n'est pas encore là. Ah oui, il arrive un jour où c'est trop tard. Et puis il y a ce verset dans Hébreux chapitre 9, verset 27 qui dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient une deuxième chance.
Ah, ah oui.
La Bible ne dit pas que si nous essayons de pousser les limites, que la porte sera toujours ouverte. Peut-être quelqu'un d'autre, même si nous mourrons avant, pourra faire, je ne sais pas, un culte, une prière, une bonne œuvre en notre nom. Pour que nous puissions... Ah non, la Bible n'en parle pas. Pas du tout. Pensez à Noé. Il y a beaucoup d'histoires comme ça dans la Bible. Hein. C'est terrible de les lire. Mais Noé, il lui a mis combien de temps à préparer son arche ? Oui, plus d'un siècle. Il faut venir dans le Nouveau Testament pour découvrir que c'était un prédicateur de justice. Alors, il était en train de la taper sur... des clous hein, pour préparer son arche, et quand les gens venaient pour se moquer de lui peut-être ou pour voir ce qu'il faisait, ben, il leur parlait, mais eux ils n'écoutaient pas. Et puis la Bible dit,
Genèse chapitre 6 verset 16, l'Éternel ferma la porte, la pluie tombait déjà, parce que la Bible dit que le jour la pluie a commencé. C'est le jour même que Noé s'est rendu dans l'arche. Et là, j'ai appelé la porte. C'est que Il laisse une opportunité jusqu'au bout. Mais vient un temps où le jugement doit venir. Et puis là, la porte ferme. C'est quelque chose de terrible. Mais je ne veux pas vous laisser avec ces histoires un peu noires. Parce qu'il faut savoir aussi que aujourd'hui est jour de grâce. Je ne peux pas vous dire combien de temps ce jour durera, mais encore aujourd'hui, c'est jour de grâce. Et si vous avez besoin de vous approcher de Dieu, confessant vos péchés, comme nous l'avons tous fait, hein? Écoutez, il n'y a personne ici qui est parfaite. Si vous êtes parfait, levez la main. Non, je ne vois personne. Non. Vous savez, l'Église n'est pas une salle d'exposition où Dieu met en avant la crème de tous les êtres humains. Non, nous sommes tous des sauvés par grâce. Et si vous avez besoin encore aujourd'hui de reconnaître devant Dieu, oui Seigneur, moi aussi, je suis comme tous les autres, un pécheur, pécheresse, j'ai besoin de ta grâce. Sachez que aujourd'hui est jour de grâce. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Sera sauvé. Dernière chose. Alors, on a vu quoi? Dieu est toujours, il tient à sa promesse. Il tient à sa parole. Oui. Des fois, il doit, quand il commence à voir son peuple s'éloigner de lui, il use de grâce et de patience avec eux. Il ne les traite pas selon leurs iniquités tout de suite. Là, il en est plus de 800 ans, déjà. Et puis, là, comme nous venons de voir, 800 ans, oui. Israël ne savait pas, mais Jérémie a essayé de le convaincre du fait que la porte est en train de fermer. Il faut changer maintenant. Mais dernière chose, c'est par rapport à Jérémie. Et à la fin de ce passage, Dieu parle à Jérémie, son prophète, parce qu'il est là, il est entouré par ces gens qui ne croient pas en Dieu, qui ne le suivent pas, qui le menacent de mort. Tu continues à parler comme tu parles, tu vas mourir de d'autres mains. Et apparemment, c'était surtout des gens d'une ville de Anatote, qui disait ça, qui était très remonté contre lui. Et Dieu alors, où était-il? Peut-être Jérémie se posait la question aussi. Mais il dit ici dans ce passage quelque chose de formidable par rapport à lui. Moi, je suis le juste juge de la terre. On est à la fin, hein, verset 18-23, je suis le juste juge de la terre. Je connais les cœurs des méchants, je connais aussi ton cœur. Et ce que j'apprends à travers tout ça, c'est que Dieu garde toujours ses fidèles. Est-ce que ça signifie que nous n'aurons jamais à passer par des épreuves? Pas du tout. Jérémie en a connu beaucoup, beaucoup. Hein? Mais Dieu le gardait. Il lui avait dit ça. Il faut retourner au chapitre 1 pour le voir. Il avait peur de se lever pour dire, oui, je te servirai. Je ne suis qu'un enfant. Oui, ça ne fait rien. Je sais utiliser les enfants pour ma gloire. Et je te garderai. Ne vous effrayez pas. D'ailleurs, quand il lui a dit ça, ça rappelait quelque chose que Dieu avait dit à son peuple dès la sortie de l'Égypte, Deutéronome, chapitre 31, verset 6, « Fortifiez-vous et ayez courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. » Devant qui? Les ennemis. Oh, ils allaient devoir combattre pour entrer dans le pays. Et pourquoi ne fallait-il pas être effrayé? Car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Ça, c'est formidable. Dieu sait garder ceux qui se lèvent pour le suivre de tout leur cœur Il n'y a personne qui le fait parfaitement. Dieu le sait d'avance. Vous savez que si Dieu devait choisir seulement les parfaits parmi nous, combien est-ce qu'il pourrait? Zéro. Mon père, il avait, encore à lui encore, il avait une bonne définition pour zéro. Il dit, c'est le rose, ou tu enlèves le rose. Zéro. Il ne demandait pas ça. Vous savez, Dieu ne peut utiliser, mais c'est tout son chic, c'est toujours sa grandeur là, de pouvoir prendre des imparfaits, des infidèles comme nous, de transformer nos cœurs et de nous utiliser dans son service. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Il a fait pour moi. Eh bien, écoutez, si je commençais à vous raconter toutes les mauvaises pensées, actes, etc., que j'ai faites, même juste dans mon enfance, sans parler de depuis, oh là 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 là, vous leverez tous pour partir. On ne va pas écouter un prédicateur comme lui, hein. Mais Dieu a aussi pris un Paul qui était, on peut presque dire, un assassin. Il persécutait l'Église. Regardez tous les gens. D'ailleurs, Paul, un jour, il a dit, regardez parmi vous, est-ce que Dieu a pris beaucoup de nobles, de sages, de grands personnages comme ça? Ben non. Ben non. Parce que ça n'existe pas. À ses yeux, nous sommes tous des faibles. Nous avons besoin de sa grâce. Et il nous dit, fortifiez-vous, ayez du courage. Je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point. Ce verset-là, pour vous rassurer que c'est encore pour nous aujourd'hui, est repris dans le Nouveau Testament et répété texto dans l'Épître aux Hébreux. Nous n'avons pas à craindre. Nous pouvons avancer parce que Dieu s'est protégé, délivré. Et un jour, même si nous devons passer par une mort même violente comme ces gens pensaient le faire contre Jérémie, il s'est aussi ressuscité. C'est l'essence même de la foi chrétienne. Dieu s'est donné la vie aux morts. Mais vraiment, j'ai enterré mon père, comme je vous ai dit. Je vous assure, il était bien mort. Un jour, il se lèvera. Un jour, il se lèvera. Vous avez peut-être aussi des amis, des parents, des, je ne sais pas qui. Vous connaissez des gens qui sont déjà partis pour la patrie céleste, comme on dit. Un jour, les tombes vont s'ouvrir, les corps vont ressusciter. Et nous allons les rejoindre et nous irons voir notre Sauveur commun ensemble et être avec lui pour toujours. Nous avons un grand Dieu, n'est-ce pas? Il est formidable. Il garde toujours sa parole. Il nous avertit, il nous rappelle à l'ordre quand nous en avons besoin. Oui, merci Seigneur aussi pour ça. Il ferme la porte. Si nous poussons trop loin. Mais il nous le dit, il nous prévient à l'avance pour que nous sachions revenir à lui. Nous repentons. Et si nous gardons, vous allez, est-il votre Dieu? Est-ce le mien? Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Mais lui, il est suffisant. Prions. Merci notre Dieu pour ta grâce envers nous. Merci de nous avoir sauvés. Merci de ta patience envers chacun d'entre nous. Merci pour toutes ces belles paroles que tu nous as laissées dans les Écritures, Seigneur, pour nous encourager et nous donner force et courage pour continuer avec toi. Merci, Seigneur, de nous rappeler que, quels que soient les aléas de la vie, tu es là avec nous. Quand bien même nous sommes désapprouvés par d'autres ou pensés l'être, quand nous pensons presque sentir la chaleur de cette
colère des autres sur notre nuque. Seigneur, tu es là. Tu nous gardes. Tu nous protèges. Un jour, nous te verrons face à face. Et nous te dirons avec joie, ça valait la peine. Ça valait la peine d'être avec toi. Reçois toute notre reconnaissance au nom de Jésus-Christ. Amen.